Chapitre 46.
Je n'ai rien contre cette idée, souffla Cassia. Pareil pour moi, ajouta Val. Mais comment savoir où est la sortie? Objecta Callan.
Oui, comment? Se demanda Richard. Il désigna le sol avec son épée.
Regardez, ce sont nos empreintes. Et maintenant, jetez un coup d'œil devant nous, dans ce couloir latéral. Là, il n'y a rien dans la poussière.
Depuis des milliers d'années, personne n'a plus marché dans ces couloirs. Ces empreintes sont à nous, et il y en a deux jeux. Ce n'est pas la première fois que nous passons dans ce couloir.
Tu veux dire que nous tournons en rond? Demanda Callan.
Sondant l'intersection, non loin devant eux, Richard vit une inscription en haut d'un mur. À cet endroit, il n'y avait pas d'empreinte dans la poussière, la preuve qu'il n'avait pas encore exploré cette zone.
Regardez là-bas, sur le mur, à l'entrée d'un autre tunnel latéral. Vous voyez?
Quatre lignes ondulées horizontales étaient gravées dans la pierre, les unes au-dessus des autres, la plus basse étant la plus large.
« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Val.
« Le symbole qui représente un berger.
Ce message m'est adressé. On nous a balisé la route. À chaque intersection, nous le retrouverons. »
Les quatre femmes sur les talons, le sourcier s'engagea dans le couloir. Aux bifurcations, il trouva effectivement un symbole indiquant la bonne direction, et quand il n'y en avait pas, eh bien il suffisait de continuer tout droit.
Cette fois, pas d'exploration des salles. Le temps pressait, et de toute manière, elles étaient vides, ou pleines d'âmes, mais ça revenait au même.
« Seigneur Hall, » dit Cassia en levant sa lampe, « regardez, un autre symbole du berger. »
« Bien joué, » lança Richard en s'engageant dans le couloir ainsi marqué. « Tu apprends le langage de la création. »
Alors que le bruit de leurs pas se répercutait dans toutes les directions, Richard entendit quand même les murmures des morts.
« Fuer grissa host draoka !»
soufflaient des milliers de voix comme pour annoncer un visiteur à d'autres âmes.
« Vous les entendez? L'une de vous les entend-elle? »«
Entendre quoi ?» demanda Nietzsche.
« À part le bruit de nos pas, il n'y a rien ?» dit Callan.
« Je suis d'accord, » renchérit Cassia.
Richard eut un soupir agacé. Être le seul à entendre lui donnait le sentiment d'avoir perdu l'esprit.
« Qu'entends-tu donc ?» voulut savoir Callan.
Richard décida de ne pas alarmer ses compagnes qui s'inquiétaient déjà assez comme ça.
« Je ne sais pas trop. Des murmures, dirait-on. »«
Tu saisis ce qu'ils disent ?»
demanda Nietzsche.
« Pas vraiment, » mentit Richard. « Continuons. »
« C'est peut-être l'écho de nos pas, tout simplement, »
avança Cassia.
« Possible. Regardez, un autre berger. On tourne à droite. »
Dans ce nouveau couloir, le petit groupe traversa des intersections où ne figurait pas le symbole du berger et passa devant des salles pleines d'âmes qui jetèrent un regard implorant à Richard. « Les symboles des tentures, » remarqua Richard, « étaient parfois des interdictions d'entrée. » Le plus souvent, il s'agissait d'invitations, ce que Nietzsche appelait des sorts d'attraction. Il y avait aussi des pictogrammes dépourvus de sens apparents qui dépassaient la compréhension du sourcier. Suivant un nouveau symbole du berger, la petite colonne remonta un long couloir sans dalle latérale ni intersection. Tout au bout, une tenture couverte de figures géométriques barrait le passage. Richard jeta un coup d'œil derrière et découvrit une ouverture en forme d'arche, la première depuis qu'il était sorti de la salle de Lucie. Les femmes sur les talons, le sourcier s'engagea dans un tunnel dont l'étrange atmosphère lui glaça les sangs. Plus large que les autres, ce couloir était doté d'un plafond plat et de murs parfaitement droits. Un silence pesant y régnait, sans doute l'explication du malaise de Richard. Tout au bout, une autre ouverture donnait accès à plusieurs couloirs dont la finition était bien moins soignée, des murs non polis, un sol et un plafond irréguliers. À croire que le dernier et large couloir était un refuge pour les morts, tandis que ces passages-là servaient banalement aux allées et venues des vivants. Au moment où il passa d'un monde à un autre, le fourmillement familier de la magie confirma cette hypothèse à Richard. De ce côté-ci, les salles étaient défendues par des portes.
« Seigneur Hall, regardez !»
lança Val en désignant une pièce ouverte.
Richard sursauta quand il découvrit les rayonnages qui couvraient les murs. Des milliers de livres étaient entreposés là.
Nietzsche se faufila entre le sourcier et la mort de Sith, histoire d'aller jeter un coup d'œil. Après avoir posé son globe lumineux, elle s'empara d'un livre, le feuilleta, le reposa, en prit un autre. Après un moment, elle se tourna vers Richard.
Des ouvrages d'une valeur inestimable. Certains sont des grimoires dangereux qu'il convient de ne pas mettre entre toutes les mains.
Callan, demanda Richard, tu reconnais cet endroit? Nous sommes dans la forteresse?
Je ne suis jamais venu ici.
Continuons. Dans les corridors de plus en plus étroits, des séries de salles s'alignaient. Les plus petites, toujours vides, étaient fermées par de simples battants de bois. D'autres, plus grandes, avaient droit à des portes bardées de fer. Des salles de travail, semblait-il, alternant avec de nouvelles bibliothèques et des réfectoires, apparemment. Dans les salles de travail, on trouvait des établis, des tabourets, des étagères et toutes sortes d'outils. Sur les tables des bibliothèques, des livres étaient encore ouverts, comme si des gens avaient été dérangés au milieu d'une recherche et n'étaient plus jamais revenus. Dans une des plus grandes salles, Richard reconnut une forge rudimentaire. Pendant d'une poutre, une corde reliée à toute une série de poulies permettait de soulever des objets très lourds. Au bout du couloir, un escalier taillé dans la pierre conduisait à un autre réseau de salles. À ce niveau, une multitude de niches murales contenait des corps enveloppés dans un linceul. Comme tout le reste, ces dépouilles étaient couvertes de poussière. D'autres escaliers firent passer le petit groupe d'un niveau à un autre, puis à un autre encore. « Callan, tu savais que la forteresse avait des catacombes ?» demanda Richard.
« Non, si nous sommes bien dans la forteresse, j'ignorais l'existence de ces lieux. »«
Les catacombes étaient souvent abandonnées, » dit Nietzsche, « et ce pour des raisons diverses, parfois parce qu'elles étaient pleines, tout simplement.
Même dans ce cas, les gens ne cessaient pas de venir honorer l'esprit de leurs ancêtres, »
objecta Callan.
« J'ai passé une partie de mon enfance dans la forteresse. » Si ces catacombes avaient été accessibles, j'y aurais été.
Il y a surtout ces ateliers et ces bibliothèques, intervint Richard. Des gens vivaient et travaillaient ici. Et on dirait bien qu'ils ont dû tout laisser en plan et filer sans demander le reste. Je trouve étrange qu'ils aient ensuite scellé ces lieux.
Tout ça remonte à des milliers d'années, dit Nietzsche. Probablement au début des Grandes Guerres, quand Sulakan vivait encore. En ce temps-là, la forteresse bruissait de vie et c'était le siège du pouvoir. Les sorciers y conduisaient les guerres.
Les magiciennes de Stroïsa étaient chargées de prévenir le conseil des sorciers. À l'origine, la forteresse était une sorte de quartier général. Une idée traversa l'esprit de Richard. S'arrêtant, il regarda Nietzsche et Callan.
Sulakan et ses sbires savent ranimer les morts.
L'inquisitrice n'eut pas besoin d'un dessin. L'empereur aurait pu attaquer en utilisant les cadavres que nous venons de voir.
Une excellente raison d'abandonner et de condamner les catacombes, non?
Mais pourquoi créer un sanctuaire des âmes sous les catacombes? Ce point-là n'avait aucun sens. À chaque niveau, Richard et ses compagnes passèrent devant des niches murales, remplies de dépouilles étendues dans des alvéoles individuelles, au-dessus desquelles on avait souvent gravé ou peint un nom et parfois un titre. Quelques ouvertures étaient entourées de sculptures ornementales. Chaque ensemble étant d'un style différent, Richard supposa que ces gravures étaient l'œuvre de membres de la famille. De toute façon, comme les noms, elles étaient usées par le passage du temps, devenant presque invisibles. À partir d'un niveau donné, les niches et les alvéoles cédèrent la place à de petites chambres funéraires, où s'entassaient des piles d'ossements. De très anciens défunts sans doute entreposés là pour faire de la place aux plus récents. Dans ces salles, les ossements étaient rangés par catégorie. Sous une épaisse couche de poussière, on distinguait par exemple une montagne de crânes disposés de façon à pouvoir regarder les visiteurs. Richard fut surpris par le nombre de gens qui vivaient à la forteresse où y travaillaient. Si ces catacombes appartenaient bien à l'ancien fief des sorciers. Chaque escalier étant plus exigu que le précédent, Richard dut baisser la tête et plaquer les bras le long de son corps. Dans les niveaux supérieurs, on revenait aux niches murales et aux alvéoles, mais sur une bien plus grande hauteur, une échelle donnant accès aux dernières rangées. Les morts qui reposaient dans ces ruches étaient enveloppés dans des linceuls si vieux et si sales qu'ils avaient pris la couleur de la roche. Quelques catafalques ornés de sculptures signalaient la présence de défunts plus huppés que les autres, même si la poussière et les toiles d'araignée ne leur témoignaient aucun respect particulier. Sous un réseau serré de fils d'araignées, certains morts enveloppés d'un simple linceul ressemblaient à des cocons géants. À chaque niveau, dans un couloir très large et incroyablement long, les tombes s'alignaient, avec une déprimante régularité. Dans certains alvéoles, semblait-il, on avait réussi à fourrer une famille entière, alors que d'autres ne contenaient qu'un corps. Régulièrement, deux ou trois nouveaux tunnels s'ouvraient à une intersection, et chacun contenait des alvéoles à perte de vue. Dans les escaliers successifs taillés à même la roche, la progression fut assez lente à cause des marches très irrégulières. À ces moments-là, Cassia passait devant, suivi par Richard, Callan, Nietzsche et enfin Val. La lampe de Cassia révéla soudain une ouverture, nettement mieux finie que toutes les précédentes. Dès qu'ils l'eurent franchie, Richard et ses compagnes se retrouvèrent dans une vaste salle, taillée à même la roche, comme en témoignaient les traces d'outils qu'on voyait encore sur les parois. Le sol, lui, se composait de dalles noires et blanches dessinant un grand motif circulaire. Cassia approcha de la table qui trônait au centre de la pièce et passa une main dessus pour chasser la poussière. Sur le plateau en noyer, rien ne reposait à part un vase blanc vide des plus ordinaires. En des temps reculés, ils avaient dû contenir des fleurs fraîchement cueillies, afin que les lieux soient moins rébarbatifs pour les gens venus rendre hommage à un parent. Une sorte de salle d'attente pour laisser aux endeuillés le temps de s'habituer à l'atmosphère. Sur tout le périmètre de cette grotte, des ouvertures s'enfonçaient dans les ténèbres. Richard en compta 9, sans autre ornement que les symboles gravés au-dessus de chacune. Du langage de la création, bien entendu. Le noyau des catacombes, apparemment. À partir de là, les visiteurs s'orientaient vers la dernière demeure de leurs défunts. Le tunnel que venaient de remonter Richard et les quatre femmes faisait partie de ce cercle. Comme les autres, il portait un nom de circonstance. « Le couloir des âmes », déchiffra le sourcier. Il y avait aussi un jardin des lilas, un fleuve de l'éternel repos et un champ de la paix. De simples indications pour permettre aux visiteurs de s'orienter. Cela dit, qu'un tunnel nommé le couloir des âmes soit le prolongement du sanctuaire des âmes ne pouvait pas être un hasard. Au fond de la salle aux 9 tunnels, un escalier en marbre doté d'une rampe polie conduisait à une simple ouverture ronde non loin de la voûte. Sur ces marches, Richard et Callan purent enfin avancer côte à côte, un vrai luxe après une enfilade des 3 corridors. De près, l'ouverture se révéla être un palier permettant d'accéder à un autre escalier. Négociant une interminable succession de paliers et de marches, au moins ici elles étaient régulières et donc sans danger, le petit groupe se lança dans une longue ascension. La fatigue vint très vite. Après un jeûne, on épuisait vite ses réserves d'énergie. Haletant sous l'effort, Richard et ses compagnes atteignirent un grand palier, où l'escalier s'achevait majestueusement sur 2 grands piliers cannelés. Au-delà, un mur de pierre bloquait le passage. Un seul bloc géant, estima Richard. Très judicieuse façon de sceller les catacombes. Même les morts animés de Sulaka n'auraient pas la force de le déplacer.
Et comment allons-nous passer ? Demanda Val. Regardez !
Cria Cassia en levant sa lanterne. Dans une niche murale, sur un côté, 2 figurines semblaient attendre le petit groupe. Les parfaites répliques des bergers de Stroïza dans les quartiers des magiciennes. La clé de la salle de Lucie au village est très probablement celle de la sortie à présent. Cassia souffla sur les figurines et fit voler un nuage de poussière. Toussant comme une perdue, elle s'interrompit, attendit que sa crise passe et recommença l'opération. Après plusieurs cycles identiques, la surface métallique des figurines apparut. Richard vint aider la mort de Sith. Bientôt, il fut évident que les figurines étaient composées du même métal que celles de Stroïza.
« Tu attends quoi ?»
demanda Callan à son mari. Toussant elle aussi, elle détourna la tête.
« Fais comme au village et voyons si ça nous permet de sortir d'ici. » « Vous entendez ?»
demanda soudain Nietzsche, tendant l'oreille vers le mur.
« Non ? Attends. »
Callan se concentra.
« Mais oui, tu as raison. On dirait que des cloches sonnent l'alarme. »